I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Le biohacking va-t-il nous aider à devenir de meilleurs sportifs et mieux vieillir? C'est ce dont nous avons discuté avec le docteur Denis. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand, bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons tous les mercredis de course à pied, mais surtout de mouvement et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité, bouger et prendre confiance en nous. Si vous me découvrez ou découvrez le podcast, il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kilos. Après un rééquilibrage alimentaire à la reprise du sport, j'ai perdu 27 kilos et je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Je vous ai raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres avec des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aident à progresser et devenir ces champions, championnes du monde de notre monde. Et si vous voulez des conseils complémentaires, j'ai créé sur mon site une page bonus. C'est là que je range des documents gratuits comme des e-books pour vous aider à devenir champion du monde, championne du monde de votre monde, ou encore mes recettes de cuisine. C'est gratuit à l'adresse suivante, bertrandsoulier.com/bonus. Et bien sûr, je mets le lien dans les notes de l'épisode. Je vous parie que vous allez entendre de plus en plus parler du concept de biohacking, car en fait il est déjà très présent par les astuces que l'on trouve sur internet, l'utilisation de compléments alimentaires, les fameux trackers aussi d'activité, de sucre ou de plein d'éléments de notre corps. Et si vous avez déjà entendu parler de Tim Ferriss, de ses livres, de ses vidéos, de son podcast, bah vous êtes déjà un petit peu familier de ce concept dont le principe consiste à optimiser ses capacités physiques et mentales, à améliorer sa qualité de vie, à prolonger sa longévité en optimisant sa propre génétique et son cerveau. Le docteur Denis a écrit le premier ouvrage français d'introduction sur le sujet. Ensemble, nous allons parler de cette optimisation et de ce qu'elle recouvre dans notre vie quotidienne et notre vie sportive. Nous allons parler épigénétique, vieillissement cellulaire, bien-être mental, sommeil, douche froide, jeûne, sucre, cohérence cardiaque. Il nous donne aussi quelques astuces et vous allez découvrir d'où viennent les fameuses séances Tabata et pourquoi à une époque je buvais un Bulletproof Coffee le matin. En nous écoutant, je suis sûr que vous allez vous rendre compte que nous sommes déjà un peu des biohackers sans le savoir car nous avons déjà testé des astuces partagées ici. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire lesquelles sur mon site bertrandsoulier.com, sur Instagram @bertrandsoulier ou en commentaire sur Apple Podcast et bien entendu dans le Hamster Zoning Club. Allez, c'est parti. Bonjour Denis.
Bonjour Bertrand, bonjour à tous les auditeurs.
Comment vas-tu?
Très bien, toujours bien. Je sors d'un petit entraînement de boxe et d'une petite douche, donc voilà, au top.
Ah, écoute, toi tu fais de la boxe, moi je reviens à l'entraînement de running, et je te le dis, hein, mais ça va qu'on est en Skype, j'ai pas pris ma douche, j'arrive tout dégoulinant comme ça, etc. Et tu sais pourquoi? Et en fait, j'ai un gros doute, et je vais commencer directement par ça, on fera les présentations après, mais tu sais, j'ai toujours le gros doute de me dire, à quel moment faut que je prenne ma douche pour l'optimiser par rapport à mon corps, ma récupération, pour ce qui est bien, est-ce qu'il vaut mieux que je transpire encore un peu plus pour que mes muscles ils se remettent bien? Est-ce qu'il vaudrait mieux que j'aille prendre tout de suite une douche froide? Est-ce qu'il faudrait que je me trempe dans un lac gelé façon Wim Hof, tu vois? Alors, je vais te le dire directement. Qu'est-ce que t'en penses?
Non, moi, je pense qu'il n'y a pas de règle définie. Déjà, bon, tu parlais de la douche froide, Wim Hof, tout ça. Effectivement, c'est hyper bien. Je pratiquais, j'ai déjà des stages de Wim Hof, donc c'est quelque chose que je pratique moi-même. Pour tout te dire, moi, la douche froide, je ne suis pas un grand fan. Autant aller dans l'eau glacée, si tu veux, là, en stage, je suis allé dans de l'eau à 1,3 degré. Moi, j'y vais tranquille, quoi. Pour moi, me baigner dans de l'eau glacée, ça ne me pose aucun problème existentiel. Mais la douche, non, je n'y arrive pas trop pour une raison très simple. C'est pour moi, la douche, c'est mon petit moment un peu sympa, un peu tranquille, relaxant. Donc non. Alors oui, non. Pour répondre à ta question, il n'y a pas vraiment de règle définie. En fait, ce qui est sûr, c'est qu'on sait très bien que la douche froide, c'est une bonne chose. Ça permet de réactiver le métabolisme. Donc ça, c'est absolument parfait. À partir du moment où tu as déjà bien transpiré pendant toute ta course, c'est pas le fait de rester dans ta transpiration qui va beaucoup jouer. Alors on sait très bien que le métabolisme continue encore à travailler une fois que l'effort est terminé. Mais à ma connaissance, il n'y a pas d'études précises sur quand est-ce qu'il faut prendre la douche et à quelle température, parce que Si tu veux, le problème de la douche froide, déjà, il faut arriver à la supporter. Et puis aussi, il ne faut pas non plus que ce soit désagréable. C'est toujours la même chose. Moi, j'ai une règle extrêmement simple, que ce soit la douche froide ou n'importe quelle chose dont on pourrait parler. La meilleure façon de faire, c'est celle qui nous convient et qui nous donne du bien-être sans non plus avoir l'impression de souffrir. Si on a l'impression de souffrir, on ne sera pas, motivé dans la durée.
Ça, alors ça c'est vrai, ça c'est un truc, même si on parle beaucoup de discipline, et moi-même j'en suis un fervent adepte parce que je vais pas faire peur aux gens, mais bon, après tout le monde sait que je cours. Alors on enregistre le 30, donc je dois faire 307 jours, 308 jours, 309 jours que je cours tous les jours, mais par le passé j'ai fait 500 jours d'affilée de pompe, enfin tu vois, il y a des trucs comme ça, donc le côté, mais en fait au bout d'un moment, on y trouve un certain plaisir, parce que sinon c'est pas des habitudes qui peuvent s'installer.
C'est clair. En fait, une habitude ne s'installe qu'à partir du moment où on a l'aspect plaisir et récompense. En fait, globalement, l'esprit humain n'a que, on va dire l'inconscient, pour utiliser des gros mots, n'a que trois moteurs. Un, la recherche du plaisir. Deux, l'évitement de la douleur. Et trois, la reproduction. Bon, quand tu cours, a priori, tu ne vas pas chercher à te reproduire. Ou alors, il faut courir très vite. Mais
J'ai
en tout
croisé un
cas,
monsieur un jour sur un chemin, je ne sais pas avec qui essayer de se reproduire, mais il était tout nu. Donc, est-ce que ça marche ou pas? J'en sais rien. Peut-être qu'il a essayé
il
des
essaie
choses.
peut-être de. Est-ce que plus loin, il n'y avait pas une femme nue? On ne sait jamais.
Je ne
Mais
l'ai
en tout
pas
cas,
vu.
voilà, la recherche du plaisir et l'évitement de la douleur. En fait, tout ça, c'est surtout à la base. Bon, je ne vais pas être trop strict au niveau de l'aspect enseignement, mais c'est important de comprendre qu'en fait, nous sommes vraiment au plus profond de nous des mammifères. Et donc, nous recherchons toujours, un, la recherche du plaisir, deux, l'évitement de la douleur, sachant que l'évitement de la douleur sera toujours supérieur à la recherche du plaisir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est face à une situation potentiellement inconfortable, on va plutôt tout faire pour l'éviter. Et il faut vraiment une bonne dose de volonté pour pouvoir aller au travers. Justement, quand tu parles de douche froide, spontanément, on n'irait pas. Spontanément, on n'irait pas. Il faut donc quelque part que notre conscient, entre guillemets, impose à notre instinct d'y aller. Parce qu'on estime que c'est une bonne chose. Après, le problème du plaisir et de la récompense, c'est qu'une fois que la récompense est là, il n'y a plus de plaisir. Par exemple, on a souvent plus de facilité à désirer un cadeau qu'une fois qu'on l'a. Une fois qu'on l'a, bon, on est un peu moins enclin au bonheur et au plaisir pour une raison très simple, parce que tout ça, motivation, récompense, c'est à la base un neurotransmetteur au niveau du cerveau qu'on appelle la dopamine. C'est un peu comme si on avait un stock de dopamine tous les jours qu'on pouvait utiliser. Et à partir du moment où on a utilisé notre stock de dopamine, et ben, il nous faut à nouveau un autre stimulant pour pouvoir à nouveau chercher un plaisir. Donc effectivement, là, quand tu parles, bon, il y a différentes choses par rapport à la course, c'est pas que la dopamine, les lus, c'est la dopamine. Après, effectivement, il y a les endorphines, on rentre dans un autre système. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il faut vraiment une bonne dose de plaisir pour pouvoir continuer sur la durée, en sachant que le plaisir, en général, il n'a qu'un temps.
Oui, mais c'est vrai, mais en plus, tu vois, dans la course à pied, il y a un truc qui est très vrai, c'est que tous ceux qui ont couru un marathon, qui l'attendaient pendant des mois et des mois de courir leur marathon, une fois ils le courent avec plaisir, mais une fois qu'ils l'ont couru, en fait, ils n'ont plus envie même de s'entraîner. Et après, on a le blues du marathonien, la baisse. Tu t'arrêtes de courir, t'as plus d'endorphines, donc t'es plus dopé à la drogue, etc. Donc, c'est des vrais phénomènes qui existent, dont on va bien sûr parler, mais on n'a pas fait les présentations, en fait. Moi, tu vois, j'ai attaqué mes billes en
Bon, t'as
tête, en
bien.
fait. Mais j'aime bien attaquer billes en tête parce que tu sais, moi, quand il y a
Ouais,
une
t'as
course,
raison.
j'entends le coup de pistolet au début d'un cross. Moi, je pars billes à fond et ensuite je commence à réfléchir un peu aux choses. Alors, on va quand même faire les présentations. Je vais te laisser te dire en quelques mots qui tu es.
Ok, donc Denis Coster, ça c'est mon nom, un de mes noms d'auteur, c'est Docteur Denis. En fait, donc mon métier principal, enfin mon vrai métier, hein, c'est médecin anesthésiste réanimateur. Je suis médecin anesthésiste réanimateur et en fait, au cours de mes études, au cours de ma vie professionnelle, je me suis beaucoup intéressé au lien entre le corps et l'esprit parce que finalement, la médecine que je pratique encore hein, d'ailleurs, mais qu'on m'a apprise finalement était excellente pour la maladie, pas forcément beaucoup pour la santé. Sauf que la santé, c'est pas que le corps, c'est le corps et l'esprit. Donc ça m'a conduit à m'intéresser à des techniques corps-esprit, des techniques mentales hein, comme l'hypnose. Hein, je suis instructeur en hypnose à la National Guild of Hypnotists. Je suis également coach en santé. Donc ça, c'est pour tout l'aspect mental. Pour tout l'aspect physique, j'ai également deux diplômes universitaires de médecine anti-âge et prévention du vieillissement. Donc, ça m'a vraiment conduit à m'intéresser à l'optimisation de l'esprit par le corps, l'optimisation du corps par l'esprit. J'ai aussi plusieurs enfin publié plusieurs de méthodes corps-esprit sur l'addiction au sucre, sur l'arrêt du tabac, sur la douleur chronique, sur les acouphènes, sur l'amincissement. Enfin, j'ai fait pas mal de choses et j'ai écrit le premier livre français sur le biohacking. Donc, le biohacking, c'est, on va dire, l'étape d'après dans toutes mes recherches. L'idée n'étant donc plus de passer du pathologique à la normalité. L'idée n'est même plus de rester du normal à la prévention santé. L'idée est donc d'aller au-delà, d'aller chercher l'optimisation des capacités physiques et mentales, comment optimiser notre corps et notre esprit par des moyens naturels. Ça peut être le sport, on va certainement y revenir, mais ça peut être des moyens également biotechnologiques. Voilà. Ça, c'est quelque chose dont éventuellement on en parlera, mais c'est pas forcément une pratique courante. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est pas comme du transhumanisme où on va chercher à modifier l'être humain. Hein. L'idée, ça va être d'optimiser. Tu vois, par exemple, une optimisation, ça va être de faire en sorte que tu cours le mieux avec tes capacités physiques d'être humain. Alors que le transhumanisme, ce serait par exemple te mettre des prothèses au niveau des genoux ou un exosquelette pour que tu cours encore plus vite. Voilà, moi j'en suis pas dans, je suis pas là-dedans. Moi, ce qui m'intéresse, c'est optimiser la biologie des personnes.
Alors, tu sais, je te l'ai dit juste avant qu'on enregistre, moi j'ai un concept, une idée qu'on défend un peu, c'est devenir un vieillard, un galopant, bondissant, etc. Mmh. Alors vieillard ou vieillarde, je sais pas comment le dire, mais en tout cas bon.
Vioc.
De bons petits vieux, mais qui bougent, tu vois, l'histoire. Ouais. Et en fait, ouais. Quand j'ai lu le début de ton introduction de ton livre, tu parles en fait des potentiels d'optimisation, parce qu'on va dire ça hein, finalement, qu'ouvre le biohacking. Mm-hmm. Justement, pour devenir des petits vieux bondissants et galopants.
Oui, en fait, l'idée c'est de comprendre que on a une génétique, on a des prédispositions génétiques, hein, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont plutôt prédisposés à courir vite, d'autres sont plutôt prédisposés à courir longtemps. On voit par exemple que voilà, les sprinteurs nord-américains sont très forts sur le sprint, mais par exemple les Éthiopiens vont être très très bons sur l'endurance. Hein, donc voilà, chaque personne a des capacités physiques. Génétique, on va dire. Mais en même temps, nous ne sommes pas esclaves de notre génétique, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire que par notre environnement, par notre mode de vie, on peut moduler l'expression de certains gènes. Ça veut dire qu'on peut très bien avoir, n'importe quoi, le gène du cancer, voilà, un gène du cancer, mais à partir du moment où on a une vie saine, qu'on ne fume pas, qu'on ne boit pas, qu'on mange équilibré, qu'on dort bien, etc., on ne va pas exprimer ce gène. À l'inverse, on peut très bien ne pas avoir de gène du cancer et puis avoir une vie complètement dissolu, on boit, on fume, on mange n'importe quoi, et ben on va pouvoir provoquer un cancer parce que justement, il y a une modification de l'expression des gènes. Donc ça veut dire que d'ailleurs, c'est exactement comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est-à-dire que finalement, peut-être que génétiquement parlant, tu n'es pas forcément un coureur. Voilà, mais pour une raison X, Y, Z dans ta vie, tu t'es mis à courir, à y prendre du plaisir et finalement à développer des capacités par l'entraînement, alors que peut-être que c'était pas spécialement ta génétique. Donc ça montre qu'il faut pas être esclave de notre génétique, qu'on a des moyens de finalement non pas corriger notre génétique, mais en tout cas corriger l'expression de notre génétique.
Tu as quand même utilisé un mot qui s'appelle épigénétique. Alors, on va juste le dire en quelques secondes, parce que je pense qu'on peut en faire des tonnes dessus. C'est juste pour repréciser aux gens là, qui viennent de s'arrêter de courir et qui disent « Attends, il a dit quoi ? Épigénétique, c'est quoi ?»
Voilà, en fait, l'épigénétique, hein, j'en ai un peu parlé sans en parler. En fait, l'épigénétique, c'est une science, hein, c'est, on va dire, la génétique 2.0. Dans les temps anciens, on avait un peu le dogme de se dire qu'à partir du moment où on avait un certain gène, il codait pour une certaine protéine et que la protéine donnait l'expression d'une certaine caractéristique. Voilà, c'était immuable, c'est-à-dire qu'on considérait que finalement, on était esclave de notre génome. Or, on a constaté que finalement, des caractères que l'on appelle acquis, hein, c'est-à-dire que des choses que l'on pouvait vivre au cours de notre vie, pouvaient influencer notre génétique, pouvaient finalement même modifier l'expression de nos propres gènes, voire même de l'expression des gènes de nos enfants, voire de nos petits-enfants. Il y a des expériences, par exemple, qui ont été montrées chez des survivants de la Shoah ou bien des personnes qui ont survécu au génocide Khmer Rouge. Leurs enfants et leurs petits-enfants avaient des traces, on va dire, dans leur ADN qui provenaient, je dirais, des traumatismes vécus par leurs aïeux. Donc, ça montre bien que finalement, ce que l'on vit peut influencer notre génétique et cette influence de l'environnement sur notre génétique, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique.
On peut s'en défaire de cette histoire-là. Enfin, tu m'as dit un petit peu oui tout à l'heure, mais par exemple, on a des aïeux qui ont vécu un truc traumatisant,
ouais,
qui est transmis en nous,
ouais,
et on peut s'en défaire.
J'adore ta question, parce que justement, c'est bien ça la magie de la chose. C'est-à-dire que oui, effectivement, on peut s'en défaire. Alors, ça a été montré sur différents marqueurs. Le marqueur peut-être qui a été le plus étudié, c'est ce qu'on appelle les télomères. En fait, notre ADN est regroupé au sein de nos cellules en petits paquets. Ces petits paquets s'appellent des chromosomes. C'est très connu, on a 23 paires de chromosomes, 23 chromosomes qui viennent de la mère, 23 chromosomes qui viennent du père, et ces fameux 46 chromosomes font l'être que nous sommes, à la fois 50% maman, 50% papa. Et en fait, au bout de ces chromosomes, il y a une petite zone que l'on appelle les télomères. Et en fait, plus les cellules se divisent, plus les télomères ont tendance à se raccourcir. Et plus les télomères se raccourcissent, plus la cellule vieillit, on va dire, en gros. Donc, ça signifie que plus on a les télomères courts, plus on est vieux, en gros, pour simplifier. Et bien, ce qui est assez incroyable, c'est de constater que le stress raccourcit les télomères. Alors, ça veut dire que le stress, du moins, raccourcit les télomères, qui sont un marqueur de l'âge. Alors, c'est peut-être un peu un raccourci de dire que le stress fait vieillir plus vite, mais en tout cas, c'est ce qui semble être le cas. Il y a à peu près 8 marqueurs du vieillissement, j'avais fait une étude là-dessus, il y a à peu près 8 marqueurs du vieillissement, et il y en a au moins 3 qui ont été prouvés comme étant influencés par le stress. Donc, on sait très bien que le stress a tendance à accélérer le vieillissement. Mais ce qui est super, c'est que les techniques anti-stress, que ce soit la méditation, surtout la méditation de gratitude, mais également le yoga ou le tai chi ou le qigong ou même les psychothérapies, ont montré qu'elles étaient capables de rallonger les télomères. Alors, est-ce à dire que la méditation peut rallonger l'espérance de vie ? C'est difficile d'être aussi strict. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la méditation permet de rallonger les télomères, qui sont donc un marqueur du vieillissement cellulaire.
Moi, quand tu me parles de méditation, je pense tout de suite à Mathieu Ricard. J'ai appris l'âge il n'y a pas longtemps et j'étais surpris de savoir qu'il était aussi vieux, finalement, parce qu'il fait plus jeune que ce qu'il est réputé. Il était surnommé comme étant l'homme le plus heureux du monde. Des études ont été faites sur son cerveau et des milliers d'heures de méditation, etc. Et j'ai appris, enfin, parce qu'il a plus de 70 ans.
Il est fantastique.
Et ce qui est incroyable, moi je pensais qu'en fait il avait 50 ans, tu vois, sur le coup comme ça, dans cette zone-là. Et puis un jour je vois un documentaire, il était en train de monter là, je sais plus où, c'était en Patagonie ou je sais pas où. Et 73 ans, je dis mais attends, il y a un truc. Bon, donc j'ai pas de mal à croire, en tout cas, tu vois, que le stress puisse faire vieillir. De même que j'ai vu, tu vois, j'ai lu un livre qui était intéressant aussi sur le fait que on s'est rendu compte que la course à pied et le mouvement améliore aussi le bien-être mental et soigne la dépression même.
Exactement. Alors il y a des études extrêmement sérieuses qui ont comparé un antidépresseur très connu que je ne citerai évidemment pas et les psychothérapies et le sport, et il semblerait que le sport 3 fois par semaine, ça passe aussi bien qu'une psychothérapie ou que cet antidépresseur extrêmement connu. Donc effectivement, le sport, c'est extrêmement bon pour une raison très simple. Alors surtout, dans le sport, en fait, c'est pas tant, je suis désolé pour toi, mais c'est pas tant l'endurance finalement qui semble être intéressante, c'est le HIIT. Donc c'est les entraînements fractionnés à haute intensité qui semblent les plus intéressants parce que sont ceux semble-t-il, qui ont le plus d'action au niveau d'une substance dans le cerveau qu'on appelle le BDNF, le facteur neurotrophique du cerveau, voilà, pour le faire en français. Alors, je fais une petite parenthèse, souvent j'utilise des anglicismes parce que j'ai beaucoup étudié les choses en anglais, mais par contre, moi-même, quand je parle, c'est une cata, donc je suis désolé, on coupera au montage. Mais en tout cas, on sait très bien que l'entraînement, surtout l'entraînement fractionné, développe le BDNF. Le BDNF, c'est ce qui va aussi aider à la création de nouvelles connexions entre les neurones. Ça va aussi permettre la production éventuellement de nouvelles synapses. Donc les synapses, ce sont les connexions entre les neurones. Parce qu'en fait, chaque jour, c'est tout à fait normal, à partir de l'âge de 20 ans, on commence à perdre des neurones. C'est normal, c'est physiologique. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que, là encore, tout à l'heure, je parlais d'épigénétique, il ne faut pas être esclave de notre génétique, il y a une façon. nous ne sommes pas esclaves de notre cerveau, c'est-à-dire que même si nous perdons les neurones, nous avons ce qu'on appelle un phénomène de neuroplasticité, c'est-à-dire que le cerveau, il peut finalement se moduler, se transformer, créer de nouvelles connexions, et quand on perd des neurones, il y a des nouvelles connexions avec les autres qui restent, qui se mettent en place, et ces connexions sont favorisées justement par le BDNF, et donc, en voie de conséquence, par le sport. Donc oui, le sport, c'est excellent pour la santé. C'est d'autant plus, tu en parlais tout à l'heure, hein, ça fait des endorphines. Donc je veux dire, voilà, le sport, c'est très bien aussi, que ça fait des endorphines, c'est bon pour la dopamine, c'est bon pour la sérotonine, c'est bon pour le moral, et évidemment, voilà, d'une manière très très claire, le sport, c'est bon pour la santé. Alors, je fais une petite parenthèse, quand je dis le sport c'est bon pour la santé, attention, trop de sport c'est nuisible pour la santé. Donc l'idée c'est aussi de savoir connaître ses limites, mais en tout cas trop de sport accélère par contre le vieillissement. Pourquoi ? Ben, parce que finalement on est tout le temps un petit peu en acidification et c'est pas une bonne chose.
Ouais. Alors sur ce sujet, je renverrai vers un, je mettrai dans les notes de l'épisode un épisode qu'on a fait avec Denis Richer qui parlait justement de comment rendre quelqu'un en bonne santé malade, ben, en lui faisant faire trop de sport. C'est lui faire perdre la santé et il avait très très bien expliqué le principe, je mettrai le lien parce que c'était dans Sport et Nutrition, c'était un épisode qui était vraiment très intéressant. Mais pour ceux qui pour revenir sur le fractionné, parce que je vois, tu vois, dans les, j'ai fait une petite marque page dans ton livre. Le professeur japonais Tabata, alors j'ai appris qu'en fait que Tabata c'était vraiment quelqu'un, moi je crois que c'était une méthode américaine où vous avez juste mis un acronyme.
C'est Monsieur Tabata qui est professeur de, je sais plus, c'est de physiologie du sport au Japon, donc c'est un homme. C'est pas non plus une actrice.
Ouais. Et Monsieur Tabata donc a mis en place les cycles d'exercice 20 secondes avec du repos et puis le faire. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce que tu dis dans ton livre, c'est que en 4 minutes seulement par jour, ça dope le métabolisme. Donc il y a même pas besoin de faire une heure de HIIT devant une vidéo YouTube dans son salon et ne plus en pouvoir. En fait, on peut en faire beaucoup moins.
Bien sûr. Alors justement, c'est ça qui est démontré par Tabata. C'est que il semblerait, là encore, j'étais sûr du conditionnel, hein, parce que c'est la même chose. Quand je dis quelque chose, c'est toujours parce que j'ai des études scientifiques derrière, mais en même temps, parfois, les études, elles se contredisent. Donc, c'est pour ça que j'ai le conditionnel. Donc, il semblerait effectivement que 4 minutes de Tabata, ça puisse être l'équivalent de 2 heures de sport. Alors, après, tout dépend aussi de ce qu'on recherche. C'est vrai que moi, j'aime bien le Tabata pour une question très simple, c'est que quand, pour les personnes dont je m'occupe, souvent les personnes entrepreneurs ou chefs d'entreprise dont je m'occupe, me disent « Ouais, mais j'ai pas le temps de faire du sport. » Je dis « Attendez, je ne demande pas de faire du sport, je me demande 4 minutes par jour. » Qu'est-ce qui n'a pas 4 minutes ? Je veux dire, c'est no way, quoi. C'est tous les gens qui fument. Les gens qui fument qui disent « Non, pas 4 minutes, ça me fait rigoler. » Donc, tout le monde a 4 minutes. Et en fait, juste 4 minutes de Tabata, c'est absolument parfait. C'est ce qu'il y a de plus simple. Après, on peut faire d'autres choses plus pour le plaisir. Bon, voilà, moi, je, il y a quelques temps, pour la petite histoire, moi, j'aime beaucoup les vidéos, enfin, les séries qui sont sur les plateformes que je ne citerai pas. Mais c'est vrai que je me disais, moi mon problème, c'est que j'ai goûté un peu jusqu'au boutiste. Hein. À l'époque, je regardais des séries, j'étais capable de me coucher jusqu'à 2 heures du mat pour regarder ma série. Mais en même temps, je trouvais quand même que c'était une perte de temps. Alors maintenant, ce qui est super, c'est que j'ai acheté un vélo d'appartement sur lequel je peux caler ma tablette. Et en fait, tous les matins, je fais à peu près 30 minutes à 1h30 de vélo d'appartement. Tranquille, quoi, comme ça. Mais pour moi, c'est pas, je le fais pas en mode HIIT, je le fais en mode tranquille, balade. Je booste pas mon cardiovasculaire avec ça, c'est juste j'entretiens les muscles et mes articulations des genoux. Donc l'idée, c'est pas que faire du sport, l'idée, c'est de faire du sport, mais le fameux pourquoi je fais du sport, qu'est-ce que je recherche derrière, est-ce que je cherche ma santé, est-ce que je cherche le cardio, est-ce que je cherche à développer ma masse musculaire, est-ce que je cherche juste le mental, est-ce que je cherche juste la détente. À partir du moment où on a un bon pourquoi, on va pouvoir trouver les bons entraînements. Par exemple, voilà, moi, je n'ai pas des genoux en très bon état. Pour moi, la course, c'est fini. Je ne vais même plus courir parce que je sais très bien que si je cours, je vais m'abîmer les genoux. Je préfère faire du vélo ou éventuellement du HIIT parce que je sais qu'avec du Tabata, je ne vais pas m'abîmer les genoux. Donc, l'idée, c'est de trouver le meilleur entraînement pour soi et ce qui soit le plus pragmatique. Et c'est vrai que quand on ne peut rien faire d'autre, le mieux, effectivement, c'est le Tabata parce qu'en 4 minutes, on obtient vraiment des résultats. Alors, on ne va pas doper spécialement notre endurance, on ne va pas spécialement doper notre cardio, on ne va pas spécialement doper nos muscles, mais au moins, en tout cas, on va relancer la machine et on va développer notre BDNF.
Ça me rappelle à l'époque où, quand je me suis remis au sport, j'ai commencé à faire 7 minutes de sport par jour, les fameuses 7 minutes. Et je me dis, ouais, mais c'est facile de faire 7 minutes, sauf qu'au bout de 3 minutes, j'étais totalement épuisé de monter, de descendre de ma chaise, etc. Ce qui montre qu'à l'époque, je n'avais aucune condition physique, et qui montre que déjà, bon, 4 minutes, quand on fait rien, c'est toujours mieux de passer à 4 minutes que ne rien faire du tout, parce que tu en parles dans ton livre. Le vrai problème que l'on a, c'est aussi la sédentarité.
Oui, ça, c'est un énorme problème. Alors, tu vois, par exemple, là, ce que je suis en train de faire, c'est pas optimisé. Tu vois, je suis assis sur une chaise en train de te parler. Mais bon, en même temps, c'est parce que ergonomiquement, chez moi, j'ai le câble Internet, etc. Mais en pratique, dans mon bureau, j'ai un tapis roulant.
Ouais.
Et je mets l'ordinateur et je bosse tout en marchant. Déjà, j'ai pas spécialement les chiffres en tête, mais si tu regardes la dépense énergétique entre le fait d'être assis et le fait d'être debout, il y a au moins 30% d'écart, si tu veux. Donc déjà, rien que le fait d'être debout, tu vois, par exemple, on est en train de faire une interview, juste le fait de passer une heure debout, on va utiliser 30% de plus d'énergie, hein, ce qu'on appelle les NEAT, les NIT. C'est les dépenses énergétiques sans rien faire, entre guillemets.
Ouais, sans activité physique.
Hein, sans activité physique, ouais. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très, très intéressant. Le fait de travailler debout, c'est quelque chose qui est très, très intéressant. En fait, l'être humain n'est pas fait pour être assis. C'est quelque chose que vraiment, je répète toujours, c'est-à-dire que, évidemment, on est en 2022, donc on a tous envie d'avoir la pilule magique, d'avoir les électrodes dans le cerveau pour pouvoir penser plus vite, etc. Il y a quand même quelque chose qu'il faut quand même se rappeler, c'est que notre corps, il est à 99% identique à celui de nos ancêtres cro-magnons. Donc l'idée, c'est que plus on vit comme des cro-magnons, évidemment, il ne faut pas faire tout et n'importe quoi, mais plus on vit comme des cro-magnons, plus c'est bon pour notre corps, c'est normal. Quand je vois, par exemple, les gens qui se gonflent au petit-déj, c'est pas logique, on est même pas fait pour petit déjeuner. Bon, ça c'est tout un débat, mais on n'est pas fait pour petit déjeuner. On n'est pas fait pour être sédentaire, on n'est pas fait pour être assis. Nos ancêtres n'étaient jamais assis comme ça sur le long terme. Ils étaient toujours en train de marcher, de chasser. Voilà. Faut quand même comprendre que nos habitudes alimentaires, on a un corps qui a au moins 10 ou 20 000 ans, et on a des habitudes alimentaires qui n'ont même pas 50 ans. On a des habitudes de vie qui n'ont même pas 50 ans. Et on s'étonne qu'il y ait une augmentation des maladies chroniques, mais c'est tout à fait normal. On ne bouge plus, on mange n'importe quoi. Donc voilà, la sédentarité, c'est pire que la clope.
Dans le biohacking, pour revenir sur le terme de biohacking, parce que je pense que les gens vont beaucoup entendre parler, puis je suis sûr en plus, alors... dans sur Kilomètre 42 peut-être moins, mais sur j'ai d'autres podcasts, c'est sur l'entrepreneuriat, etc. Et puis il y a des noms qui reviennent. Et moi, je pense toujours tout de suite à Tim Ferriss, parce que
Est
l'homme qui expérimente tellement de trucs sur son corps, tellement de choses, mais y compris des choses qui des champignons magiques et compagnie, qui a fait tout un tas de choses, mais qui est vraiment dans l'optimisation du corps. Rappelons que alors Tim Ferriss, pour ceux qui connaissent pas, c'est la semaine de 4 heures, qui avait fait aussi sur il avait fait des programmes aussi autour de sport, etc. et tout, il a fait beaucoup de choses autour de ça et sur l'optimisation, la productivité, sur énormément de choses. Alors, le biohacking, pour moi, c'est un terme qu'on va vraiment beaucoup voir. J'ai envie de dire, je sais pas s'il vient de la Silicon Valley, mais je me demande s'il est pas un petit peu comme le yoga, la méditation, et des choses comme ça. C'est-à-dire que c'est un petit peu des espèces de concepts qui nous arrivent un petit peu pour optimiser. Et attention, question très provocatrice et volontairement provocatrice.
J'adore ça.
C'est, est-ce que c'est pas une invention du capitalisme pour qu'on dorme moins, qu'on travaille plus?
Alors, ok, on va commencer par ça, parce que ça, j'adore cette question. Alors, vois-tu, ce qui est assez super, donc, bon, pour la petite histoire, effectivement, le biohacking, ça date d'il y a une dizaine d'années, on va dire, c'est un terme qui a été développé et créé par un entrepreneur américain qui s'appelle Dave Asprey, qui a fait tout un business autour. Hein, lui, il est beaucoup dans les compléments alimentaires, les régimes, etc. Et ensuite, ça s'est développé, effectivement, dans l'idée de développer toujours les capacités physiques et mentales et de produire plus. Je fais une petite parenthèse, effectivement, maintenant Tim Ferriss, qui est lui aussi dans l'optimisation, maintenant il est à fond dans le biohacking, ce qui est tout à fait logique. Alors, ta question qui est provocatrice, j'aime beaucoup pour une raison très simple, c'est que bon, pour l'instant, le terrain est relativement vierge en France, parce que je crois que j'ai été quasi un des premiers à parler du biohacking en France. En tout cas, j'ai écrit le premier livre en français sur le biohacking. Ce qui est très intéressant, d'ailleurs, j'en discutais avec le staff de Biohacker Magazine, je travaille aussi avec le magazine Biohacker Magazine, outre-Atlantique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on avait discuté justement de ça, et je lui avais dit que la vision du biohacking à la mode French way, parce que nous, on a quand même notre art de vivre à la française, et on ne va certainement pas le laisser tomber. C'est-à-dire que si je dis à un Français, je t'enseigne le biohacking pour être plus productif et pour faire vraiment beaucoup plus et produire beaucoup plus, le Français va me dire, attends, dans tes rêves. L'idée, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que si effectivement, on considère le biohacking comme étant produire plus, produire plus, produire plus, ce qui est finalement la vision américaine, nous, en France, ça ne va pas forcément nous parler. Donc moi, je considère plutôt que le biohacking, ce n'est pas tant l'efficacité qui m'intéresse, c'est l'efficience. L'efficience, c'est-à-dire quoi? C'est l'efficacité, mais optimisée, c'est-à-dire produire plus, mais en s'emmerdant moins, en fait. Désolé d'avoir été utilisé un gros mot, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que l'idée, personnellement, si je veux optimiser mes capacités, c'est pour avoir plus de temps, pour passer du temps avec ma famille, plus de temps pour pouvoir faire du sport. Tu vois, par exemple, ne serait-ce que quand je te dis, moi, le matin, finalement, je me réveille tous les jours entre 5 et 6 et je me fais une demi-heure à une heure et demie de vélo en train de regarder ma série sur... Bah, pour moi, ça, c'est de l'optimisation, ça. Alors, je ne dis pas que c'est du biohacking, mais c'est de l'optimisation. C'est-à-dire que je ne perds pas mon temps, je fais un truc qui me fait plaisir. En plus, je fais quelque chose qui est utile pour ma santé. Donc, l'idée, ce n'est pas forcément produire, pour répondre à ta question que je trouve tout à fait pertinente. Non, c'est produire justement plus en moins de temps pour pouvoir justement avoir plus de temps pour soi. Et ça, je dirais, c'est le biohacking à la française. Et c'est vrai que quand j'en avais parlé aux Américains, ils aimaient bien cette idée parce que finalement, ils aimeraient, à mon avis aussi, se rendre tentés par nos RTT, nos 35 heures et notre cool attitude.
Ouais, eux qui sont en train de succomber sous les termes comme hustle et compagnie, de dire qu'il faut toujours en faire. J'avais lu aussi, parce que c'est intéressant, j'ai lu des articles il y a pas longtemps sur le sommeil, comment le sommeil est maltraité. Et en même temps, je lis un livre sur le sommeil. Et toi, tu peux le voir parce que c'est le livre, c'est Pourquoi nous dormons, qui est fabuleux ce livre et qui explique à quel point le sommeil est un médicament extraordinaire et à quel point on en a besoin. Et l'idée, je me dis quand même, dans cette histoire du biohacking, parce que tu en parles du sommeil, les gens, en fait, voudraient toujours réduire leur sommeil, ou en tout cas, trouver un moyen peut-être de dormir moins et d'être plus en forme. Alors, est-ce que c'est possible?
Le problème, c'est que, comme disait mon professeur de neurologie quand j'étais jeune étudiant, je te parle de ça, c'était il y a 25 ans au moins, le professeur De Gaulle nous disait, et ça m'est vraiment marqué, hein, nous sommes comptables de notre sommeil. Ça veut dire un truc très simple, c'est que si tu es fait pour dormir 8 heures, et ben, si tu n'as pas tes 8 heures, ton organisme, il te le fera payer d'une manière ou d'une autre, parce que tu es comptable de ton sommeil. Voilà. C'est vrai qu'il y a des petits dormeurs, il y a des gros dormeurs. On considère que d'une manière un peu abrupte, il faut dormir 7h30 par nuit. Il y en a certains qui sont très bien en faisant moins, certains qui sont très bien en faisant plus, mais on considère que 7h30, c'est le bon timing. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le sommeil, c'est le meilleur médicament qui soit. Il y a le sommeil profond et le sommeil paradoxal. Il y en a un qui va plutôt réparer l'esprit, l'autre qui va plutôt réparer le corps. En tout cas, nous avons besoin de notre sommeil, nous avons besoin de notre sommeil pour intégrer les informations, nous avons besoin de notre sommeil pour cicatriser, pour digérer, pour réparer, pour l'anabolisme cellulaire, pour la musculation. Nous avons besoin du sommeil, c'est absolument essentiel. Et c'est vrai que le problème, c'est de tomber dans le cercle vicieux, de se dire je me couche super tard en regardant des écrans, alors pour m'endormir, je vais prendre une benzodiazépine, et puis hop, pour quand je me réveille, bah, évidemment, je suis complètement naze, donc je me prends un café, et puis comme je suis encore un peu naze, à 13h, je vais me reprendre un café, et puis peut-être même un pour finir la journée à 16h-17h. Tiens, c'est bizarre, je comprends pas pourquoi j'ai du mal à m'endormir, c'est pas grave, je vais me prendre une benzodiazépine et ça ira mieux. Et c'est parti pour un tour. Et voilà, et c'est comme ça qu'on rentre dans un cercle vicieux où à la fois on utilise, c'est-à-dire qu'au lieu de rouler à la même vitesse, eh ben on alterne le frein à l'accélérateur, frein à l'accélérateur, on se dit mais c'est bizarre, pourquoi j'avance pas, quoi.
Ouais, et ça vaudrait le coup de faire un jour, je ferai un épisode sur la caféine parce que qui est un perturbateur du corps et du sommeil qui est énorme et qui les gens se rendent pas compte, c'est qu'il faut des heures et des heures pour qu'ils s'éliminent de l'organisme.
Ah oui. La demi-vie de la caféine, hein. Donc la caféine, la demi-vie, ça veut dire le temps pour avoir la moitié dans son sang. La demi-vie de la caféine, c'est 4 heures. On considère qu'un produit est totalement éliminé au bout de 5 demi-vies, 4-5-20. Donc théoriquement, quand tu prends un café, tu n'as plus de caféine au bout de 20 heures. Donc c'est pour ça que, voilà, moi je dis toujours aux personnes, évitez de boire du café après 14 heures. Pourquoi? Parce que déjà, entre 14h et mettons 22h, ça fait 8h. Donc, on a réduit la caféine de 75%. Il reste quand même 25% en caféine. Hein. C'est quand même pas non plus négligeable. En fait, le problème, c'est quoi? C'est que la caféine empêche la synthèse de l'adénosine. En fait, quand on fait des efforts, que ce soit des efforts physiques ou mentaux, on va produire une substance hein, qui est un dérivé du métabolisme de nos cellules qu'on appelle l'adénosine. Et bien, l'adénosine, en fait, va conduire au sommeil. L'adénosine, c'est ce qui provoque la fatigue. Quand on se sent fatigué après avoir fait des efforts, c'est parce qu'on est plein d'adénosine. Et en fait, la caféine empêche la synthèse d'adénosine. Donc, effectivement, on ne se sent pas fatigué, mais on ne se sent pas fatigué parce que ça nous booste. On ne se sent pas fatigué parce que finalement, on trompe notre corps. On l'empêche finalement de s'exprimer sa vraie nature. Alors, ça m'arrive d'en prendre de la caféine, mais moi, quand j'en prends, c'est la caféine le matin avant de faire un gros entraînement de muscu ou des choses comme ça. Mais voilà, l'idée, c'est d'utiliser la caféine pour ce qu'elle est, à savoir un dopant physique et mental. En tout cas, l'idée de faire cette alternance caféine-benzodiazépine, non, ça ne va pas du tout. Après, bon, juste pour dire deux mots par rapport à la caféine, le problème aussi de la caféine, c'est que certes, il y a un effet psychostimulant. La caféine est un psychostimulant, mais c'est aussi un effet énervant. Et d'ailleurs, je donne une petite astuce aux auditeurs. Si vous prenez de la caféine, que vous sentez un peu nerveux après, je vous encourage à prendre de la L-théanine. Donc, la L-théanine, qui est un dérivé du thé, on peut le trouver en magasin bio. L'idée, c'est de prendre deux fois plus en milligrammes de L-théanine qu'on a pris de caféine. Si vous prenez 100 g de caféine, prenez 200 g de L-théanine. Vous allez garder les effets psychostimulants, mais vous éviterez les effets, je dirais, irritation ou tremblement, de la caféine.
Le premier conseil pour celui qui veut biohacker, parce qu'il y a plusieurs domaines, donc il y en a plein, ça serait de commencer par quoi en fait?
Alors déjà, juste je reviens un peu à la définition pour que les personnes puissent vraiment comprendre dans ce qu'il s'agit. Biohacking, bio la vie, hacking le piratage ou bien la prise de contrôle. L'idée donc de prendre contrôle de notre vie. À tout l'heure, je parlais de la génétique, l'épigénétique et de la neuroplasticité. Donc l'idée c'est de prendre contrôle de notre vie en prenant le contrôle de notre biologie. Donc l'idée c'est aussi de maîtriser notre environnement interne et externe. L'environnement externe c'est ce que je vais manger, c'est le stress que je subis, c'est l'air que je vais respirer. Mon environnement interne, ça va être par exemple, mes hormones, mon microbiote, mes émotions. Tout ça, c'est mon environnement interne. À partir du moment où je maîtrise mon environnement interne et externe, je suis susceptible de maîtriser ma biologie et donc plus à même de maîtriser ma vie. Alors, par quoi commencer? Ça, c'est une excellente question. Moi, je commence toujours par la base, à savoir par le Big Bang. Voilà. La vie est née par le Big Bang. Et le Big Bang, c'est quoi? C'est de l'énergie. Donc, l'idée, c'est de venir à la base. Parce que tout le monde parle d'énergie. Hein. Le sportif va parler d'énergie. Le yogi va parler d'énergie. Le pratiquant de karaté va parler d'énergie. Tout le monde parle de l'énergie. Mais en fait, l'énergie, ça veut tout et rien dire. L'énergie, c'est quelque chose qui est en nous et qui est au plus profond de notre cellule. En fait, il faut comprendre que nous sommes vivants parce que nos cellules sont vivantes. Nos cellules sont vivantes parce qu'elles ont de l'énergie. Elles ont de l'énergie parce qu'elles sont capables de produire une molécule qu'on appelle l'ATP, l'adénosine triphosphate. Elles produisent de l'adénosine triphosphate parce qu'elles arrivent à mélanger finalement au sein de petits organismes cellulaires qu'on appelle les mitochondries. Nos cellules arrivent à transformer ce que nous mangeons en énergie. Voilà, parce que ça paraît pas évident quand on réfléchit. Pourquoi finalement on mange? Eh ben, on mange parce que ça nous permet d'avoir de l'énergie. En fait, tout ce qu'on mange contient du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène et de l'azote pour ce qui est des protéines. Tu prends tout ça, tu mets dans un shaker avec de l'oxygène, tu mélanges, et ben ça produit de l'énergie, ça produit des déchets qui sont le dioxyde de carbone que l'on va expirer et la vapeur d'eau qu'on va expirer. Voilà, si on expire du CO2, si on expire de la vapeur d'eau, c'est parce qu'on est capable de produire de l'énergie. Le CO2 et l'eau que l'on rejette sont finalement les déchets de notre production d'énergie cellulaire. Donc voilà, première chose à faire, c'est qu'est-ce qui peut permettre à notre corps d'augmenter notre énergie? Et bien, il y a des choses extrêmement simples. On en parlait tout à l'heure. Le HIIT est un très bon moyen de doper nos mitochondries, d'augmenter nos époques. La douche froide, on en parlait également. Les douches froides, ou tout ce qui est ce système que l'on va appeler l'hormèse, hein, c'est-à-dire le fait d'exposer notre corps à un stress, va augmenter notre capacité de production d'énergie. Le fait de faire du jeûne aussi, hein, le jeûne intermittent, va augmenter notre énergie, tout simplement parce qu'on va obliger nos cellules finalement à trouver de l'énergie ailleurs. Quand nos cellules, elles n'ont pas de l'énergie par la bouffe, il faut qu'elles le trouvent autrement. Et cette manière de faire la plus simple, c'est finalement de se manger soi-même, hein, ce qu'on appelle l'autophagie. On va chercher à le corps se nourrit finalement des cellules abîmées ou malades pour développer plus d'énergie et avoir une énergie rentabilisée. Donc l'idée, c'est ces choses-là. Voilà, manger moins de sucre aussi, par exemple. On sait très bien que le sucre, c'est pas bon pour nos mitochondries. Après, bon, il y a des expositions aux toxiques, hein. Par exemple, manger du mercure à travers trop de gros poissons, c'est pas bon pour l'énergie. La pollution, c'est pas bon pour l'énergie. Donc voilà, la première chose à faire, c'est de prendre soin de ses mitochondries. Ça, c'est la base de la base. À partir du moment où on a commencé à faire ça, eh ben déjà, on va se sentir mieux. Alors, pour la petite histoire, moi, j'ai mis en place un protocole que j'appelle le protocole énergie, en fait, protocole mitochondrie, qui est une espèce de routine, justement, globalement, avec les éléments dont je t'ai parlé. Et en fait, moi, j'ai mis ça en place dans la clinique dans laquelle je travaille. En fait, dans la clinique dans laquelle je travaille, il y a un centre de fécondation in vitro et il y a un des gynécologues avec lequel je discutais qui me disait que, d'après lui, certainement un des gros facteurs de problèmes de fertilité, c'était les mitochondries des ovaires, des ovocytes. Et donc, je me suis dit, OK, qu'est-ce qu'on pourrait proposer à ces patientes pour pouvoir doper leurs mitochondries? Donc voilà, donc j'ai mis en place toute une espèce de routine. Il y a pas mal de ces patientes qui l'ont fait. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il est encore trop tôt pour dire si ça a une influence sur la fertilité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que toutes les patientes disent que depuis qu'elles font ce protocole, elles sont beaucoup plus en forme, elles dorment mieux, elles ont moins de stress. Et même pour la plupart, elles ont perdu du poids. Voilà. Juste parce qu'on relance la machine métabolique.
Mais on y met quoi? Alors, je te demande pas de dire tout le détail complet, mais...
Ah non, mais il y a pas de... C'est globalement ce que j'ai dit, hein. C'est-à-dire, c'est douche froide, c'est le jeûne, bien dormir en expliquant comment on dort bien, en évitant la caféine, donc je suis à la même heure, en ce moment à la même heure, c'est diminuer le sucre, jeûner, enfin, globalement, c'est à peu près tout ce que j'ai raconté. Il y a pas de mystère, pas le mystère du Saint-Graal. En fait, j'ai juste regardé dans les publications scientifiques quelles étaient les routines un peu de la vie de tous les jours qui avaient été spécifiquement authentifiées pour pouvoir booster les mitochondries. Et en fait, globalement, c'est ce que j'ai mis en place comme étant une routine. Voilà, globalement, il n'y a pas grand-chose. Hein. L'idée, c'est donc d'apporter plus d'énergie aux cellules et également... Parmi les propositions qu'il y a, il y a manger des fruits et des légumes. Ça paraît tout bête, mais on dit toujours, ouais, il faut manger des fruits et des légumes. Mais dans la logique routine énergie, c'est justement des fruits et des légumes. Parce que dans les fruits et des légumes, il y a beaucoup de vitamines, notamment les vitamines du groupe B, qui sont très importantes dans la production d'énergie. Il y a également de la vitamine C, qui est un antioxydant. Donc les antioxydants, c'est fondamental parce que ça permet justement de renouveler les mitochondries une fois qu'elles ont fait leur travail, parce que en fait quand elles font leur travail, les mitochondries produisent des déchets, hein, dioxyde de carbone, de l'eau, mais également ce qu'on appelle les radicaux libres, hein, ces fameux radicaux libres dont on parle beaucoup. Et ben il faut un système antioxydant pour désactiver ces radicaux libres. Voilà, ces antioxydants, on en les a notamment dans les fruits et les légumes, mais surtout dans les fruits rouges, hein, les baies, les mûres, les myrtilles, etc., qui sont très très riches en antioxydants. Donc voilà, c'est pas des choses hyper compliquées. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre surtout le pourquoi. Pourquoi je fais ça? Je mange bien. Pourquoi? Parce que je veux doper mes mitochondries.
Ce qui est totalement dingue dans cette histoire, c'est qu'en fait, je me rends compte. Ça fait plusieurs années que j'ai un programme sur mon site qui s'appelle SAM. C'est ma philosophie de vie qui s'appelle sommeil, alimentation, mouvement. Sam, tu vois, c'est simple. C'est ce qui m'a permis de retrouver mon énergie. Alors, je sais pas si je l'emploie dans le bon mot, mais en tout cas, moi, je trouve que c'est ce qui m'a permis, en tout cas, de retrouver mon énergie, perdre du poids, retrouver du sport, etc. Et dans tout ce que tu viens de dire, je me dis, mais en fait, je suis une sorte de biohacker, tu vois, parce que la logique que tu viens d'expliquer, en fait, c'est exactement aussi vers ça que je tends. Et c'est, on en a parlé dans plein d'épisodes. Par exemple, tu parlais tout à l'heure, on parlait de Wim Hof. On a fait un épisode avec Leonardo Pelagotti sur la respiration, sur l'eau, le jeûne, sur des trucs comme ça. Moi, par exemple, j'ai découvert avec son livre, je ne pensais pas qu'il y avait autant de méthodes de respiration, ce qui est dingue. Et en même temps, moi, je pensais savoir respirer et je lui avais dit un truc. Et je lui ai dit, j'ai appris, il n'y a pas si longtemps que ça, que je ne savais pas respirer. Et c'est un ostéo qui me l'a dit. Et en regardant mon diaphragme, comment il fonctionnait, il m'a dit, mais en fait, vous respirez pas bien. Et vous manquez de respiration. Puis, un naturopathe aussi, tu vois, m'a dit ça. Et je me dis, mais c'est même pas du biohacking, tu vois. C'est de retrouver finalement les compétences de notre corps qu'on devait avoir il y a extrêmement longtemps et qu'on a perdu par l'enfermement dans notre, ce que j'appelle ma roue de hamster, mais...
Mais c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, au-delà de l'aspect, effectivement, biohacking, le côté un peu non-marketing à l'américaine, etc., qui peut parfois faire sourire ou rebuter, la première chose à faire, c'est se rappeler que nous sommes des hommes du Cro-Magnon. Et donc, plus on se rapproche, finalement, de cette idée, plus on va être dans le vrai. Voilà, nos ancêtres, ils regardaient pas les séries le soir, hein. Quand le soleil se couchait, ils se couchaient, quand le soleil se levait, ils se levaient. Hein. Voilà, quand il faisait froid, ils étaient en froid, et quand il faisait trop chaud, ben, fallait supporter la chaleur. On n'avait pas la clim, on n'avait pas le chauffage, etc. Ils avaient un petit feu où il fallait faire avec. Donc finalement, et puis il fallait la bouffe, fallait la chercher. Hein. Il a été étudié que les Cro-Magnons, le matin, pour chercher à manger, faisaient à peu près 20 km. C'est-à-dire que notre corps, il fait le matin pour marcher 20 km à jeun. Et pourtant, même si notre corps est fait pour ne pas manger le matin, qu'est-ce qu'on fait? Le matin, on va manger des tartines avec de la pâte à tartiner au chocolat.
Bah, c'est bon,
comme
ça.
Comme les Américains, what the fuck.
Non, on rappellera aussi que les céréales, les cornflakes sont inventés pour passer les stocks de maïs ou de je ne sais pas quoi, de blé à une époque. Mais ce qui est fou en fait dans ces histoires-là, c'est que on a l'impression quand même qu'il y a un bout de l'humain qu'on a perdu en fait.
Oui, en fait, c'est vrai que si tu veux, c'est pour ça que quand je parle du biohacking, il y a des personnes qui disent ouais, en fait, c'est de la naturopathie basique. Ouais, mais pas que, évidemment. C'est juste que c'est la base de la base. Évidemment, en fait, globalement, il y a trois phases dans le biohacking. Un, la première phase, c'est de déterminer des équilibres qu'on peut avoir. La deuxième, c'est les équilibrer. En général, c'est avec, effectivement, des choses très naturelles. Hein. Mais moi, j'ai pas réinventé la roue. Hein. Donc, je reprends des choses très simples. Effectivement, après, le biohacking, entre guillemets, où il devient un peu rigolo, c'est quand une fois qu'on a équilibré tout ça, qu'on va dans l'optimisation. C'est là où après, effectivement, on rentre vraiment dans le biohacking qui s'éloigne, on va dire, de la naturopathie ou des méthodes de grand-mère. L'idée, c'est d'aller beaucoup plus loin. Je vais te donner un exemple. On sait très bien, par exemple, que le jeûne, ça ralentit le vieillissement, ça augmente la longévité. D'accord ? Sauf qu'on ne peut pas non plus jeûner... Tout le temps. Donc, à partir du moment où on a fait un jeûne intermittent, on ne peut pas faire plus pour augmenter sa longévité. Et bien, à ce moment, on peut prendre des compléments alimentaires qui renforcent le système du jeûne. Tu vois ? Et là, à ce moment-là, on n'est plus dans le, je dirais, dans la naturopathie basique. Là, on est vraiment dans le biohacking, pour le coup.
Ouais. J'ai envie de dire quand même, il y a bien des potions magiques. Parce que je vois en plus dans le sommaire là, la recette de la potion magique.
Ouais.
Tout le monde cherche la potion magique. On rêve tous d'avoir la potion magique comme Astérix et dans leur village, une petite potion. Il y a bien des potions qui existent quand même, rassure-moi.
Oui, bien sûr, il y a plein de potions qui existent. En fait, l'idée, c'est déjà, par exemple, les compléments alimentaires. Les compléments alimentaires, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent des compléments alimentaires, mais qui, à côté de ça, ont une vie complètement merdique. Aller toute la journée à bouffer des hamburgers, et après prendre des antioxydants et des compléments alimentaires, c'est juste ridicule. L'idée, c'est d'avoir un mode de vie sain. Une fois que ça s'est fait, comme je disais, une fois qu'on est allé au maximum de ce que la nature peut nous offrir, là, effectivement, après, on peut chercher des formules magiques. Mais les formules magiques, elles ne servent à rien si on n'a pas déjà fait la base. Alors, la question, est-ce qu'il y a des formules magiques? Oui, bien sûr. Tout à l'heure, je parlais des dangers du sucre. Je suis très à l'aise pour en parler parce que j'ai écrit un bouquin sur les dangers du sucre. Donc, on sait par exemple que le sucre, c'est très mauvais. Voilà, on sait très bien que si on prend trop de sucre, on risque d'avoir le diabète, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va diminuer le sucre. On diminue le sucre et là, on est mieux. On est bien là. Et on se dit, OK, qu'est-ce que je peux faire pour optimiser ma diète de sucre? Je vais prendre, par exemple, des plantes. Je vais prendre, par exemple, de la berbérine. Voilà, c'est très bon pour... optimiser la diète de sucre. Et puis on se dit, je vais aller encore plus loin, je vais prendre du chrome. Le chrome, c'est un cofacteur de l'insuline, ça va aussi optimiser un peu ma diète de sucre. Et ok, je vais aller un peu plus loin, je vais prendre de la Galega officinalis. Je prends la Galega, c'est une autre plante qui va équilibrer encore plus le sucre. Et puis après, on se dit, OK, ben, peut-être que je vais passer à la chimie, je vais pas en prendre de la metformine. Alors, la metformine, ce qui est super, c'est que c'est un médicament qu'on donne chez les diabétiques. Donc, les diabétiques qui prennent la metformine sont moins diabétiques, mais quelqu'un de non diabétique qui prend la metformine, hop, la metformine, elle se change et elle devient un médicament anti-âge et anti-cancer. Ouais, par exemple, la metformine, ça fait partie de la, alors, surtout, j'insiste bien, quand je dis ça, je ne fais que donner des informations à nos auditeurs. Je n'incite absolument pas nos auditeurs à se mettre n'importe comment sous metformine. Je dis juste que la metformine a été documentée comme étant un médicament anti-âge et anti-cancer. Et qu'en l'occurrence, par exemple, et je ne peux parler que de mon cas parce que j'ai fait ce qu'il fallait pour pouvoir dire ça, personnellement, je suis sous metformine. Mais comme beaucoup de médecins, moi voilà, j'approche la cinquantaine, comme beaucoup de médecins qui approchent la cinquantaine, je suis sous metformine alors que je ne suis pas diabétique. Voilà, ça fait partie de la recette de la potion magique. Il y a beaucoup d'autres choses.
Moi, je pensais que le bulletproof coffee était une potion magique aussi, parce que tu en parles dans ton livre.
Oui, le Bulletproof Coffee est une potion magique, bien sûr, mais je dirais c'est une potion magique relativement basique. Le Bulletproof Coffee, c'est quoi déjà? Ça se fait avec du jeûne. Donc déjà, ça se fait avec un jeûne intermittent. Le Bulletproof Coffee, en fait, c'est un mélange de caféine, enfin de café. Donc déjà, c'est de la caféine, donc qui est pris le matin au petit-déj. Donc on évite comme ça les problèmes de sommeil. Du café qui est mélangé avec du gras. Du gras, en l'occurrence du beurre, ou bien de l'huile MCT. Donc, effectivement, ça fait partie des potions magiques. Personnellement, j'aime pas le café, donc j'en prends pas. Mais en tout cas, voilà, ça fait partie des potions magiques. Alors, pourquoi prendre du gras le matin? Tout simplement parce que le gras ne va pas influencer notre taux de sucre dans le sang. Donc, on peut prendre du gras le matin. En fait, quand je disais tout à l'heure qu'il fallait éviter de petit déjeuner le matin, en fait, si on ne peut pas ne pas petit déjeuner, parce qu'il y a des personnes qui peuvent pas se passer du petit déj. Auquel cas, il n'y a pas de souci, mais à ce moment, il faut prendre un petit déjeuner plutôt gras et protéiné. Voilà. Le pire étant de prendre un des petits déjeuners sucrés, c'est une catastrophe. Les pâtes à tartiner, c'est très mauvais. Ou alors les croissants, les pains au chocolat ou les chocolatines, hein, ça dépend où tu te trouves, mais c'est des bombes à retardement à l'avenir.
Ceux qui sont adeptes du boulangeron auront noté le petit message. Mais bon, comme on fait partie de. Quand on fait boulangeron, on va courir 20 bornes avant d'acheter sa baguette de pain. Donc on se dit, bon, on limite un petit peu le problème.
Bon.
Un autre truc qui est quand même. Il faut le dire aussi, parce que je l'ai. Et puis moi, je l'ai souvent dit, parce que j'ai des quantités de curcuma à la maison.
Ouais.
Qui sont j'avais acheté des gros pots de curcuma à une époque, j'en ai pris en gélule, j'en ai pris en plein de trucs. Les épices, peut-être que
Ouais.
les gens le voient pas assez, mais les épices font partie de la trousse à outils du biohacker.
Bien sûr, c'est fabuleux les épices. En fait, les épices, c'est plein plein d'antioxydants, c'est magique les épices. Donc effectivement, les épices, c'est quelque chose à mettre vraiment l'argent à main nue dans les plats. Ce d'autant plus que c'est vrai que bon, il y a un régime qui est vraiment le régime phare des biohackers. Je ne dis pas forcément que c'est ma tasse de thé, mais c'est le régime cétogène, c'est-à-dire manger surtout du gras, etc. C'est pas forcément très très goûteux. Ben, l'avantage, c'est qu'en mettant des épices, on peut comme ça un peu rééquilibrer le repas. Mais bon, par exemple, parmi les épices, il y a un truc assez marrant, c'est le romarin. Enfin, le romarin contient de l'acide rosmarinique. L'acide rosmarinique va lutter contre ce qu'on appelle la glycation. En fait, mettons, on fait un barbecue. En fait, quand on fait griller les saucisses, hein, l'espèce de griller sur la saucisse, en fait, espèce de caramel, hein, en fait, c'est extrêmement toxique, hein, c'est un mélange de graisse mélangé avec le sucre de la viande et de ça carbonisé. Enfin bref, c'est une horreur pour l'organisme. Et donc, ça fait ce qu'on appelle de la glycation et c'est très mauvais pour l'organisme. Et ben, le romarin, ça lutte contre la glycation. Donc, à la rigueur, si vous faites un barbecue, ben, prenez du romarin avec. C'est le genre de petites astuces pour utiliser les épices.
À la maison, on a une blague. On dit quand on fait un barbecue, on invite Maillard et Benzopyrène à venir manger avec nous.
Ouais.
S'ils ont justement, parce que pour rappeler, alors ceux qui ne savent pas, c'est la réaction de Maillard, c'est justement se griller. Benzopyrène, c'est quand c'est
Tout à fait.
vraiment noir là et qui sont toxiques. Et c'est la blague à la maison qu'on avait fait un jour sur Instagram, parce que ma femme avait fait des études de naturopathie et le jour, j'ai regardé mes saucisses et je disais à chaque fois, je dis mais comment faire un barbecue sans les faire griller? Et c'est vrai que maintenant que tu me donnes l'astuce, je dis bon bah tiens, j'ai un autre beau truc à mettre dans ma petite trousse à outils. Parce que finalement, le biohacker, parce que les gens dans la tête, hacking, ils voient tout de suite les pirates informatiques, etc. Mais en termes américains, On est plutôt dans aussi l'amélioration, la bidouille, l'expérimentation, rechercher ce qui peut améliorer, un peu dans le bricolage, on va dire.
Ouais. Mais c'est complètement ça, en fait. L'idée, c'est de partir déjà sur tout ce qui est scientifiquement établi. C'est-à-dire que moi, je ne me casse pas la tête. Hein. Si, admettons, tu me dis, je ne sais pas, est-ce que la pomme, c'est bon pour le cœur, par exemple, bah, moi, je ne vais pas commencer à dire, ah ouais, moi, je pense que non, moi, je vais sur un site de référence de publication scientifique internationale. Je mets, par exemple, Apple hein, et je mets, je ne sais pas, problème cardiaque, un heart disease, et je vois un peu toutes les publications scientifiques, et là, une fois que je regarde ça, je vais dire, ah oui, ok, la pomme, c'est bon ou pas pour le cœur. Donc, moi, j'ai toujours la... Je suis un ancien chef de clinique des universités, donc voilà, j'ai encore le réflexe d'aller regarder les publications scientifiques. Donc, l'idée du biohacking, c'est d'abord d'utiliser vraiment des outils qui sont scientifiquement prouvés. Mmh. Et ensuite, une fois que c'est scientifiquement prouvé, l'idée, c'est de le pratiquer sur soi-même. Déjà, voir si soi-même, ça nous convient. Et ensuite, si soi-même, ça nous fait vraiment du bien. Tout à l'heure, bon, voilà, les douches froides, bon, je sais que les douches froides, c'est super. Je milite pour les douches froides, mais moi-même, bon, j'aime pas ça. Voilà. Bah, ça fait partie des choses. L'idée, c'est d'utiliser des choses scientifiquement prouvées et ensuite de voir sur soi si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Après, nous sommes tous différents. Alors, il y a quelque chose, par exemple, qui se fait aux États-Unis, c'est pas vraiment fait de pratique courante en France. Je crois que Tim Ferriss en parle de mémoire. En fait, c'est le fait de mesurer son propre sucre dans le sang. Par exemple, voilà, on dit que il y a les sucres rapides, les sucres lents. Bon, maintenant, on sait que finalement, c'est un peu bullshit hein, de dire sucre rapide, sucre lent. C'est très bien que c'est pas comme ça le truc. Mais par exemple, il y a des personnes qui vont se rendre compte que quand elles vont prendre des pommes de terre, elles vont avoir une élévation du sucre qui va être moins rapide que quand elles prennent des pâtes. Donc, voilà, ça permet aussi comme ça de checker vraiment nos propres paramètres biologiques. Donc ça, voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire dans le biohacking. On peut déjà effectivement faire des choses simples. Ensuite, on peut faire des choses plus complexes comme mesurer, par exemple, sa glycémie en temps réel. Après, on peut faire des analyses sanguines. Et après, on peut aller encore plus loin, même si actuellement, ce n'est pas autorisé en France. Hein, donc, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Mais en tout cas, par exemple, aux États-Unis, c'est très facile d'envoyer un morceau, un peu de son crachat dans un tube à essai et dans un laboratoire qui va regarder notre ADN et qui nous dira plein de conseils sur notre way of life en fonction de notre ADN. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas encore... comment dirais-je, réalisable en France. Mais en tout cas, je veux dire, vu que c'est de pratique courante aux États-Unis, je suis quasiment sûr que dans les, je sais pas, 5 à 10 ans, ça sera une pratique courante en France.
Oui, et puis tu parlais de mesurer la glycémie, etc. Le sport, on est quand même des sacrés biohackers hein, dans le sport bien et dans sûr. La course à pied. Il y a notamment un capteur qui s'appelle Super Sapiens, et on a vu notamment, ils ont plein de sportifs de très haut niveau, et là je vais regarder le site, mais je pense pas me tromper si je dirais que le plus grand marathonien de l'époque, Kipchoge, est ambassadeur, ou en tout cas on l'a vu avec un capteur, on a vu des coureurs de très haut niveau avec des capteurs, on voit des sportifs, et ils vendent beaucoup aux sportifs, en fait. C'est vrai, et que c'est capable de mesurer, c'est une espèce de pastille qui est collée en permanence sur toi, et alors il faut la renouveler tous les 2-3 mois, hein, je crois, un truc comme ça, ça coûte, c'est pas donné, hein, l'histoire, mais ceux qui sont vraiment férus de chiffres, ils vont l'avoir, justement, cette mesure-là, c'est accessible finalement, du moment que t'as le budget, finalement, ils vont, t'es capable, ça mesure glucose, pendant ton activité, après l'activité, etc. Donc finalement, on a de plus en plus d'outils de mesure. Si on prend, moi, tu vois, j'ai ma montre cardio là que je suis, qui mesure mon sommeil. Ça fait quelques jours. C'est une Coros. Ils ont rajouté dedans une précision dans la mesure du sommeil entre les mesures REM, sommeil profond, etc. Pour rajouter encore un degré de mesure. J'ai vécu avec une montre WeThings pendant des années qui mesurait aussi le nombre de pas, parce que les fameux 10 000 pas. Qui sont des fois jugés un peu bullshit en disant c'est pas le bon chiffre, etc. Mais quand même, moi, un mérite, c'est que quelqu'un qui fait 10 000 pas, il est pas mal. Hein, dans son quotidien, il est quand même pas mal en amélioration de son mode de vie, quand même.
Oui, bah ça, de toute façon, ce dont tu parles, là, le tracking, c'est vraiment voilà, une des bases du biohacking. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, tu parlais des mondes connectés, il y a une bague qu'on appelle la bague Oura, qui est très connue chez les biohackers, le fait de traquer son sommeil. Après, là où il faut faire la différence, faut faire le distinguo, c'est qu'est-ce qu'on traque et surtout qu'est-ce qu'on en fait. Déjà, est-ce que le tracking est fiable? Et après, qu'est-ce qu'on a fait? Parce que mettons, ok, c'est super, on dit, ah bah ouais, tu dors super mal parce que tu as des RM qui sont pas comme il faut, etc. So what? C'est-à-dire que c'est un peu le problème c'est un peu le point du tracking. Après, il y a aussi la question de la fiabilité. Moi, je m'intéresse en ce moment à un appareil américain qui permet de mesurer le métabolisme en fonction de si on est plutôt en consommation de sucre ou de gras. J'aime bien le concept. J'ai eu des bons retours de la part des biohackers américains. Mais en même temps, les études pour l'instant me satisfont pas complètement. Donc, je sais pas trop quoi en faire. Donc, voilà. Après, il faut vraiment faire la différence entre le gadget et la réelle utilité. Moi, je pense que parmi les choses les plus simples, hein, qu'on peut faire basiques, c'est un test de Ruffy-Dixon. Voilà, tout simplement, tu fais des flexions, tu mesures ta fréquence cardiaque avant, pendant, après, au bout de 5 minutes, et tu vois un peu ta récupération. Honnêtement, moi, j'ai l'impression que ça vaut tous les tracking cardiovasculaires possibles. Hein. Tu vois ta récupération au niveau de ta fréquence cardiaque, tu vois si à combien tu bats au repos. Je veux dire, un gars comme Indurain qui bat 35 quand il est 35 par minute quand il était un peu à fond, là tu te dis ok, il a une bonne récupération, le garçon.
Ouais, mais c'est un élément intéressant parce qu'en plus toi tu es médecin, donc la réanimation et compagnie, tu connais ces trucs-là. Mais moi, mon médecin, quand je me suis mis à faire du sport, elle me faisait des cardio, des bilans, elle prenait ma tension, etc. Et à chaque fois, elle me dit un truc, elle me dit oh, ça se voit que vous êtes mis à courir parce que le cœur, il est quand même, il est calme. Hein.
Ouais. Oui, bien sûr, en fait, c'est ça le fait. Un excellent marqueur d'un bon cardiovasculaire, c'est la capacité de récupération. Je veux dire, si après avoir couru un 100 mètres, tu comme ça, tu craches tes poumons et tu mets une heure pour t'en mettre, c'est que tu n'as pas une très, très bonne récupération. Voilà, c'est vrai que je fais des entraînements de boxe. La boxe, c'est très, très, très physique. Depuis que je m'entraîne à faire du cardio, c'est beaucoup plus simple d'aller jusqu'au bout de mes entraînements de boxe en étant encore tranquille, quoi. Voilà, c'est quelque chose qui se développe. Hein. Ce qui est magnifique, c'est que le cardio, c'est quelque chose qui se développe. Mais la meilleure chose à faire, c'est de mesurer sa récupération, qu'il y a une fréquence cardiaque au repos, qu'il y a la fréquence cardiaque après l'effort, qu'il y a la fréquence cardiaque au bout de 5 minutes, 10 minutes, et ça peut se checker extrêmement facilement. Tous les auditeurs, ils peuvent faire ça et voir réellement leur récupération. C'est un des meilleurs tracking qui existe. C'est un tracking physiologique extrêmement simple.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en plus, l'outil, c'est assez simple, hein, de le faire. On a même des applications qui permettent de le faire encore plus facilement, etc. On dit les montres connectées maintenant. Beaucoup ont des capteurs qui sont présents dedans, etc. Donc, on n'a même pas besoin de savoir compter.
Ce qui n'est pas forcément simple.
Ce qui n'est pas forcément simple de voir. Bon, moi, j'étais incapable de le faire. J'admets honnêtement dans cette histoire-là. Mais cette histoire de battement m'a toujours fait, enfin, de pulsation, repos, etc. C'est vrai, en plus, c'est un marqueur de la fatigue aussi, parce que si on est fatigué, parce que par exemple, si on dort mal, si on est sous stress, etc., ça va, le cardio aussi va être impacté.
Ah ben, c'est sûr. En fait, le truc, c'est qu'à partir du moment où on est en stress, je ne vais pas rentrer dans des considérations physiologiques un peu compliquées, mais en fait, on a dans le système nerveux, on a un système qu'on appelle le système nerveux automatique ou autonome, qui a un côté accélérateur qu'on appelle le sympathique, un côté freinateur qu'on appelle le parasympathique. Donc, à partir du moment où on est en stress, c'est le côté sympathique qui va s'activer, c'est avec l'adrénaline, etc. Et le retour au repos, c'est le parasympathique. L'idée, c'est que plus on entraîne le parasympathique, plus on va pouvoir récupérer facilement. C'est le principe de la cohérence cardiaque. Je pense que vous allez certainement connaître la cohérence cardiaque, mais en tout cas, c'est le principe qui a finalement d'entraîner notre parasympathique pour récupérer plus facilement. Donc, voilà, l'idée, c'est de comprendre que plus on récupère facilement après une course ou après un effort, plus on va également récupérer facilement après un stress intense. C'est le même système.
Et cohérence cardiaque, je le dis à tout le monde, moi j'essaye de faire mes 3 séances par jour. Hein. J'ai découvert ça il y a 2-3 ans. Pendant la période de confinement, c'était un truc, c'est génial en plus, parce que ça permet de d'être bien démarré la journée, avant le midi, etc. Le soir, moi qui me réveille très tôt en plus, tu vois, le matin, je fais tranquillement ma petite séance, il n'y a pas un bruit, etc. C'est cool. Et c'est plus facile d'accès pour ceux qui se posent la question que de la méditation, etc.
Oui.
Parce que la méditation fait partie aussi des outils du biohacking.
Tout à fait. En fait, là encore, c'est... Je dirais que quand tu me dis la méditation fait partie de l'outil du biohacking, je te dirais oui, pas tant en tant qu'outil, mais plus par rapport à ce qu'on va mettre derrière. Mmh. Je reprends ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que, mettons, tu es stressé, tu fais de la méditation, tu seras moins stressé. Par contre, tu n'es pas spécialement stressé, tu fais de la méditation, hop, boum, tu passes dans l'anti-âge. Le biohacking, en fait, l'idée, c'est toujours de partir non pas du pathologique pour aller vers la normalité, c'est d'aller vers la normalité, vers l'optimisation. Effectivement, la méditation en soi, c'est assez rasoir. Personnellement, moi, j'ai un peu de mal parfois à méditer. Alors, ma femme dit toujours que c'est super parce qu'elle est l'instructrice de méditation, hein, prof de yoga en plus d'être médecin homéopathe, donc elle est bien là-dedans. Moi, j'ai beaucoup de mal. C'est pour ça que les cohérences cardiaques, je trouve ça vraiment beaucoup plus simple. L'avantage avec les cohérences cardiaques, on peut faire ça tout le temps. Je veux dire, tu es en voiture, tu es au feu rouge. Pas combien de temps ça dure, un feu rouge, mais même si c'est dur, je sais pas, 1 minute 30, 2 minutes. Tu fais la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, tu peux le faire n'importe où, n'importe quand. Alors, c'est vrai que la méditation, tu peux aussi faire n'importe où, n'importe quand. Mais c'est ce qu'on appelle la méditation informelle. Parce que la méditation formelle, c'est je mets une bougie, je médite et je suis comme ça. Ouais, c'est un peu rasoir. Mais là, tu vois, je me fais une pause. Voilà, juste ça, tu vois. En quelques secondes, je dis OK, je vois ça, j'entends ça, je ressens ça. Tu vois, je me fais les 5 sens et voilà, je me fais une espèce de mini-méditation informelle. En fait, la méditation, c'est être dans l'ici et le maintenant. Il faut voir qu'on est quand même très rarement dans l'ici et le maintenant. Mais une bonne façon de se remettre dans l'ici et le maintenant, déjà, c'est de se forcer à le faire ou alors de faire des choses qui nous paraissent incongrues. Par exemple, quand on se lave les dents. Bah, c'est facile, là, je peux me brosser les dents et penser au prochain podcast que je vais faire. Tu vois, parce que c'est vrai, brosser les dents, ça va plus être automatique. Mais si je m'amuse à prendre ma brosse à dents avec la main gauche, là, je ne vais plus pouvoir penser au podcast, là, parce qu'il faut que je sois vachement concentré pour ne pas m'exploser la gencive avec une maladresse. Mmh. À partir du moment où on fait quelque chose que l'on n'a plus l'habitude de faire, on revient dans de la méditation, en fait. La méditation, c'est simplement revenir dans l'instant présent, chose comme on est très rarement dans l'instant présent. Voilà, l'idée, c'est de comprendre que la méditation, c'est juste ça, revenir dans l'instant présent. Mais effectivement, ça demande une certaine discipline, je dirais, alors que la cohérence cardiaque n'a pas vraiment besoin de beaucoup de discipline, en sachant que faire la cohérence cardiaque, c'est également une méditation, parce que quand tu es devant ton application, avec par exemple la bulle qui monte et qui descend, en fait, tu médites, hein. Tu es tellement dans l'instant présent en train de regarder ta bulle que tu médites aussi.
Ouais, c'est ça aussi. J'ai une dernière question, parce que quand même, on va le dire, il y a des choses que tu dis dans biohacking, qui par rapport à l'évolution de notre société, du monde dans lequel nous vivons quand même, je dis pas que c'est contraire, mais c'est quand même aller prendre un autre chemin. Je prends un exemple. Là, on enregistre. J'ai dit le 30. Demain, il y a un match à Roland Garros, Nadal contre Djokovic. 20h45 minimum le coup d'envoi. Ça peut durer 5 heures, une histoire comme ça.
Ouais.
Et d'un autre côté, je me dis, si je veux le voir en direct, mon sommeil va être totalement impacté. Il y avait le foot l'autre jour, la Ligue des Champions. Bon, en plus, ça commence encore plus tard. C'est pareil. Je veux regarder une émission à la télé. Il y a, je sais pas quoi. Il y a du transport. Le livre sur le sommeil, qui est super intéressant. Je le répète, je mettrai les notes dans l'épisode. Rappelle aussi, par exemple, que le rythme scolaire qu'on impose aux enfants et aux adolescents est totalement, contre nature par rapport à leur rythme de sommeil et par rapport au décalage de sommeil. J'ai envie de dire quand même, alors, je dis pas qu'il faut vivre en décalage, mais par moment, quand même, et Tim Ferriss, on a un peu cette impression, tu vois, parce que s'il fait la semaine de 4 heures, dans son livre, pour ceux qui ont lu le livre aussi, c'est qu'en fait, il s'est mis à trouver un moyen de gagner de l'argent en travaillant peu, pour vivre et apprendre plein de choses à son propre rythme, et justement, pour avoir le temps de faire ça, de vivre à son propre rythme, d'améliorer, etc. Et j'ai envie de dire quand même qu'on est dans, il y a une espèce de tension dans cette histoire-là. C'est-à-dire que, et je reviens un peu à mon histoire de capitalisme de départ aussi, de dire, la société, elle nous met des normes, des contraintes, il y en a ça, ça et ça, tout à faire. Et quand on regarde le truc, on dit, ouais, mais en même temps, si je veux améliorer finalement mon fonctionnement et être à mon maximum, mais je sais pas si notre maximum est connu, mais en tout cas, progresser, je dois être aussi un petit peu en décalage.
Oui, et c'est toujours la première question que je pose hein, quand les gens veulent faire du hacking, hein, dans la formation que j'ai faite, c'est la première question, hein, c'est quel est le pourquoi? Voilà, quel est le pourquoi? Et je dirais même quel est le pourquoi derrière le pourquoi? Tout est une question de motivation. Après, la question, c'est toujours la même chose, il faut choisir ce que l'on veut et après savoir si on est prêt ou non à en payer le prix. Si par exemple, mettons, tu dis OK, je veux absolument regarder le match Nadal-Djoko, parce que pour moi, c'est hyper important. C'est très bien que le prix à payer, c'est que le lendemain, je vais avoir un stand céphalorectal, c'est-à-dire, vulgairement parlant, la tête dans le cul.
Alors,
Mais je.
ça, attends, il faudrait que je l'enregistre, je vais la renoter, parce que celle-là, la prochaine fois, je la ressortirai.
Donc, non, c'est quelque chose que je sors souvent en formation. Donc, voilà, si tu dis OK, je sais très bien que ça va être comme ça, mais j'en accepte le prix, ben c'est OK. Je vais te donner un exemple personnel, hein. Ben moi, comme beaucoup de personnes, j'aime les viennoiseries. Hein, c'est OK.
Bah, c'est comme ça,
Un
hein.
bon pain au chocolat, un peu chaud. Attends, c'est dur de résister contre ça. Je sais très bien que c'est pas bon pour moi. Je sais très bien, comme je suis intolérant au gluten, que 2 heures après, je vais le payer. Je le sais. Mais ça m'arrive parfois quand même de prendre. Je prends, je me fais payer. Je sais très bien que je me fais payer pendant 5 minutes et que je vais le payer pendant 2 heures. Mais je suis conscient de ce que je fais. La question est de savoir qu'est-ce que je veux et est-ce que je suis prêt à en payer le prix. À partir du moment où là, on est là, c'est OK. Je veux dire, on n'est pas là pour être des ermites. Après, la question est de savoir optimiser, oui, mais pourquoi? Si c'est juste optimiser pour pouvoir être devant la glace, me regarder, waouh, j'ai une tablette de chocolat, je suis heureux, mais en même temps, je vis pas, je m'éclate pas, ça n'a aucun intérêt. Le but, c'est quand même de vivre bien. Maintenant, si on peut vivre bien tout en vivant longtemps, c'est le top. Donc, l'idée, c'est de trouver les bons aménagements. Et c'est vrai que si tu te dis, OK, je vais me coucher tard parce que je vais absolument regarder Nadal et Djoko, et ben, mettons, le lendemain, tu te dis, OK, normalement, je dis n'importe quoi, je sais pas à quelle heure tu te lèves, mais mettons que tu te lèves à 7 heures, tu dis OK, même si je me couche à 3 heures du matin, je me lève quand même à 7 heures parce que je veux pas rompre mon cycle. Je sais très bien que je vais être fatigué. À 14 heures, je me fais une petite sieste de juste 20 minutes pour que la playlist passe bien. Et hop, je me couche à 20 heures, par exemple. Voilà, c'est tout. Tu es content de ton sommeil. Donc à partir du moment où tu comprends ça, voilà, après, il faut. Faut vivre le mieux
Ouais. Et
possible.
je t'ai donné Roland Garros, mais j'avais pire. J'avais les fans de NBA qui se couchent à 5h du matin pour regarder les matchs de playoffs. J'en connais. Parce que je les ai vus sur Instagram et Twitter ce matin en disant, oh punaise, c'est pas possible que ça va faire ça. Tiens, moi j'avais vu une astuce et une dernière potion magique. Tu parlais de la sieste? Et on parlait de café, parce qu'on a quand même parlé pas mal de café, etc.
Ouais, il y a la power nap caféine, ouais.
Voilà, la power nap, la sieste caféinée, c'est-à-dire on prend le café juste avant de
Exactement.
dormir, avant que ça fasse
Exactement.
effet, on dort
Ouais.
10-20 minutes.
10 minutes, ouais.
Et quand on se réveille, on a l'effet du café.
Ouais, exactement. Ça m'arrive de le faire. Pas avec du café, je bois pas de café. Donc, en fait, à ce moment-là, je prends tu sais, du truc pré-workout, quoi. Et ce qui revient au même. Et effectivement, ouais, voilà, ça marche bien. Toujours la même chose, l'idée, c'est de savoir pourquoi on fait les choses et d'avoir comme ça, comme tu dis, des moyens de tricher pour pouvoir récupérer un cycle de sommeil normalisé et pouvoir continuer la journée, aller jusqu'au bout, quoi. C'est quand même le but du jeu.
Eh ben écoute, Denis, en tout cas, c'était super intéressant. C'est un sujet qui est vraiment, on va beaucoup en parler, puis les gens vont vraiment voir beaucoup ce terme-là, et parce que c'est le, on cherche tous des résultats. Puis tu dis dans le livre, hein, on cherche tous à être meilleurs, à être. Alors nous dans la course, à courir plus vite, à courir plus longtemps, à mieux vieillir, à manger mieux. Enfin, il y aura plein de trucs en plus, parce que en fait, on est des vrais biohackers. Quand on voit les recettes de cuisine qu'on fait pour essayer de pas avoir mal au ventre, quand on fait des ultras. Ma dernière invitée, j'ai eu l'autre jour, elle fait des siestes de 6 minutes quand elle court, quand elle fait des ultras. Si ça, c'est pas un côté hacking, etc. aussi. Mais en fait, il y a vraiment beaucoup de choses et je pense que chacun, dans cette logique-là, on cherche les choses, etc. Alors, ce que je te propose maintenant, c'est juste de me dire, pour les gens qui veulent en savoir plus, qu'est-ce que tu leur proposes et où est-ce qu'ils peuvent aller chercher des informations pour en savoir plus? Où est-ce qu'on peut te suivre, etc.
Alors évidemment, c'est Puisque le concept est américain, la tentation est grande d'aller chercher les informations de ci, de là, sur divers sites. Alors, il y a des sites excellents, il y a des sites moins bons, il y a des sites qui étaient excellents et qui maintenant font plus du business. Donc voilà, l'idée, c'est évidemment, je vais parler pour ma paroisse, hein, mais voilà, moi j'ai un site sur le biohacking, c'est docteurdenis.com, hein, docteurdenis, docteur en toutes lettres, denis, denys.com. Vous pouvez télécharger mon e-book gratuitement dans docteurdenis.com/cadeau. Hein, je pense qu'on enverra le lien. J'ai aussi une chaîne YouTube, c'est Docteur Denis, méthode de biohacking. Donc voilà, vous pouvez également vous abonner. Il y a deux vidéos par semaine sur le biohacking. Alors c'est vrai que n'hésitez pas aussi à poser des questions parce que voilà, moi je suis toujours en interaction avec les personnes qui peuvent m'écouter, qui me disent bah tiens, est-ce que tu peux me parler de ça ou de ça. Donc moi j'aime bien justement ce côté interactif. Quand on pose des questions, ou bien je sais auquel cas je réponds, et si je sais pas, j'ai toujours l'humilité de dire je ne sais pas. Je vais chercher l'information et je vous donne l'information en sachant que c'est une information qui sera toujours sourcée. Et voilà. Enfin, je fais en sorte que quand je dis des choses, il y a des études derrière ou s'il n'y a pas d'études, au moins il y a une expérience personnelle que je peux développer. Donc voilà, docteurdenis.com et pour le livre docteurdenis.com/cadeau, la chaîne YouTube. Et voilà, sinon j'ai aussi les réseaux sociaux, Insta, Facebook, LinkedIn, enfin voilà, tout le classique, mais surtout voilà, moi ce qui m'importe c'est développer le biohacking. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment à cœur de ça. Moi j'aime beaucoup enseigner, j'aime beaucoup transmettre, j'aime beaucoup apprendre, et ce qui est super c'est que finalement ça m'a permis d'apprendre plein de choses, de les expérimenter sur moi, après les expérimenter sur mes patients, de me rendre compte que ça marchait bien, de le proposer à plus de personnes. Et voilà, et l'idée c'est, si je peux aider, contribuer à ce que les gens soient en meilleure santé, c'est super. Et puis là encore, tu vois, tu disais parmi dans ton audience, il y a des sportifs. Ben, si indirectement, je peux aider les sportifs à aller être mieux dans leur corps, à aller plus vite, à aller plus loin et se sentir mieux, c'est super. Dans ton audience, il y a aussi des entrepreneurs. Si je peux aussi aider des entrepreneurs à être plus focus pour être plus productif ou du moins d'avoir une meilleure efficience, ben, je suis super content. Voilà, de plus en plus, j'interviens pour les entrepreneurs justement parce qu'ils savent que Tim Ferriss fait du biohacking. Donc, voilà. C'est vrai que quand, moi, ça fait pas 2 ans peut-être que j'en parle, 1 an et demi, 2 ans que j'en parle. Au début je prêchais un peu dans le désert, maintenant c'est vrai que ça se développe de plus en plus et c'est tant mieux. L'important c'est de trouver la bonne information et de pas non plus aller vers des trucs un peu bullshit, genre j'ai un mode de vie pourri mais à côté de ça je prends des dopants, enfin voilà.
Voilà, et c'est dit. Et puis les mitochondries n'étaient pas inconnues dans notre podcast puisqu'on a déjà parlé des mitochondries, et notamment parce que l'endurance, courir lentement, je pense que ça marche aussi avec la marche, j'allais dire, une activité de cardio, ce qu'on appelle l'endurance mentale, est très bonne pour développer les mitochondries et notre fameuse énergie. Et tu vois, on n'a pas parlé d'Einstein, on aurait pu parler d'Einstein, mais on se le réserve pour une autre fois. Mais
ces histoires
d'énergie, etc. Et j'ai fait un épisode un jour aussi sur... on avait parlé de l'eau de Quinton, tu sais, des choses comme ça, qui font partie aussi des techniques. Alors, t'en parles pas dans ton livre, mais je mettrai les liens dans les notes de l'épisode parce qu'on avait fait un épisode justement sur l'énergie dans les cellules et comment notre corps était fait d'encore plus d'eau que ce que l'on pense et comment tout ça fonctionne ensemble. C'est un sujet qui est passionnant. Je te remercie beaucoup en tout cas de nous l'avoir présenté, de nous avoir donné des astuces, d'avoir présenté un petit peu la logique, parce que de ce terme que je suis sûr qu'on va en entendre beaucoup parler. Et je mettrai bien entendu tous les liens dans les notes de l'épisode pour que chacun on puisse suivre, on puisse continuer comme ça. Et puis n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire, venez mettre un commentaire, viens en parler dans la Master Zoning Club. Quelles sont vos techniques de biohacking que vous utilisez? Parce que je suis sûr, en écoutant l'épisode, ils se sont dit ouais, mais je fais ça. Tu vois, moi, le Bulletproof Coffee, la Power Nap, etc. Tout un tas de trucs dont on a parlé. Je suis sûr que j'en ai plein d'auditeurs qui l'ont vu. Tu vois, qui se posaient des questions et qui se rendent compte, en fait, ils ont encore de trucs à creuser. Alors, merci Denis.
Des biohackers, quoi.
Voilà, en fait, on est tous des biohackers. En fait, merci Denis pour cette information. Merci pour le temps passé avec nous. Et puis nous, on se retrouvera la semaine prochaine avec une nouvelle invitée. Je vous dis pas qui, je ne sais pas qui c'est. Ça, je sais pas. Ça, c'est le biohacking de mon cerveau. On n'est pas encore tout à fait fait sur ce domaine-là. Mais en tout cas, on continuera à parler de comment est-ce qu'on devient champion du monde de notre monde et comment on devient des vieillards bondissants, galopants, etc. dans tous les sens. Parce que c'est ça aussi notre but. Et c'est aussi pour ça que je t'ai invité. Parce que je pense que les outils dont on a parlé là nous permettent justement d'y arriver. Merci Denis.
Merci à toi. Un grand merci à toutes et à tous.
Bon, c'est encore moi. J'ai un dernier petit mot à vous dire avant de vous laisser écouter un autre épisode de podcast. Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous abonner, bien entendu, au podcast. Vous pouvez le faire sur Spotify, Apple Podcasts et tous les lecteurs de podcasts. Mais aussi, si vous voulez, à laisser une petite note 5 étoiles sur Apple Podcasts. Vous savez que ça aidera le podcast à se faire découvrir et à permettre à plein de gens de découvrir aussi les vertus du mouvement. Allez, ce coup-là, je vous laisse et je vous souhaite à tous une très belle journée.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.